pourrait peut-être demander à Christophe, au fond de la salle, de fermer la porte. Merci beaucoup. Les rangs me semblent un petit peu clairsemés. C'est peut-être dû à la manifestation. Enfin, voilà. Et puis peut-être aussi la lassitude. En ce qui concerne l'organisation interne de ce cours, je vous signale donc dès aujourd'hui que la séance de jeudi, le 28 novembre, c'est-à-dire dans 15 jours, nous aurons l'occasion, et l'honneur et la joie, d'accueillir Madame Dominique Hernandez, pasteur de l'Église protestante unie à Palaiseau, qui nous entretiendra de Jean 13 et de ses prolongements pour le discours de la scène. Donc, c'est une personne qui a soutenu pas plus tard que l'an dernier un diplôme en master recherche à la faculté de théologie protestante du boulevard Arago. Et il se fait que nous avons un certain nombre d'affinités et que je me réjouis de ce qu'elle puisse vous communiquer le résultat de son travail. Ensuite, sans que j'ai sans doute pris peut-être assez soin de consulter les délégués étudiants, mais de toute façon, essayer de trouver une séance de questions-réponses, de débats, c'est toujours un peu la quadrature du cercle, étant donné tout ce qui se fait dans cette maison. Je sais qu'avant ce cours, donc il y a aussi jusqu'à la fin du mois de décembre, comme me l'a dit Michel Fédoux, un cours qu'il donne très intéressant, sans aucun doute, sur le salut. Mais donc, je propose... Je crois que la salle C4 sera libre à partir de la semaine prochaine, de 14h30 à 16h, avant notre cours, le 12 décembre cette fois. Donc l'avant-dernière séance avant les vacances, pour ceux et celles qui le désirent, pour ceux et celles qui le peuvent. Donc c'est toujours intéressant de laisser remonter des questions en tous sens, tout est possible. Mais surtout, disons, limité à notre champ de travail, le quatrième évangile. Donc, jeudi 12 décembre, ici, je crois que j'aurai confirmation tout à l'heure de la possibilité de nous réunir en salle 4, de 14h30 à 16h, avant notre cours, donc de 17h à 19h, séance débat, questions-réponses sur le cours. Vous avez vu que le menu de ce soir est assez copieux, j'espère que ça ne provoquera aucune indigestion, mais comme vous savez, dans l'évangile de Jean, le temps est compté pour ce cours aussi, donc il faut que nous avancions, et je voudrais justement avancer d'un bon pas pour valoriser ce qui m'est encore apparu tout récemment de la place de Jean 6. Donc le grand texte sur les pains, le discours sur le pain de vie, et puis alors la division entre les disciples à la fin de ce chapitre. Donc je vais commencer par rapidement brosser ce qui s'est passé avant que nous n'arrivions ce soir à Jean 6. Après donc l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, j'ai dû aller vite pour la dernière partie, mais qui est à la limite moins importante, encore que, voilà, on retrouve la grande idée que la bonne nouvelle de Jésus se communique par contagion, plus que par appel explicite de Jésus dans cet univers johannique. Mais ce que nous pouvons dire, pour synthétiser aussi un petit peu un certain nombre de choses que nous avons vues jusqu'à présent, c'est que la figure stylistique la plus caractéristique de l'évangile selon Jean, c'est la prolepse, terme un peu technique, qui veut dire l'anticipation de la fin dès le commencement et tout au long des développements. Nous l'avons déjà rencontré à plusieurs reprises, notamment la dernière fois lors de la scène au temple. C'est un moment tout à fait révélateur de ce point de vue. Quand donc il fut relevé d'entre les morts, d'entre des morts, parce que ce n'est pas l'article défini qui est employé, ils se rappelèrent ses disciples que ceci il l'avait dit. Donc, ce qui nous fait très clairement comprendre que le texte suppose connu les événements de la fin de la vie du Christ, sa passion, sa mort et surtout sa résurrection, à la limite, sa vie n'est écrite que parce que cette vie échappe aux emprises de la mort. Et donc, nous avons aussi retrouvé le même procédé en conclusion du dialogue entre Jésus et la Samaritaine. « Je sais, dit-elle à Jésus, en conclusion de ce dialogue central des versets 16 à 26, qu'un Messie vient, donc il vient, verbe cher au quatrième évangile, mais pour l'avenir et un avenir indéterminé, pour la fin des temps, celui qui est dit Christ, Messie, Christ, hein, on est dans un monde où on évoque des termes araméens et hébreux, mais on les traduit parce que cette langue n'est plus connue. Je sais qu'un Messie vient, celui qui est dit Christ, quand il viendra celui-là, nous communiquera toute chose. » Et réponse de Jésus, c'est la première fois aussi qu'intervient la fameuse formule « ego eimi, ho la lon soi, moi je le suis, qui t'adresse la parole à toi. » Donc Jésus anticipe dans le présent du dialogue ce que la Samaritaine attend pour la venue d'un Messie Christ à la fin des temps, ce qui reste d'ailleurs la caractéristique de l'attente messianique dans le judaïsme aujourd'hui. Parce que tout est écrit à la lumière du commencement, nous avons vu ça dès l'ouverture du prologue hymnique, au commencement il y a la parole, et la parole est auprès de Dieu, et Dieu, elle est la parole. Dès les 5 premiers versets du prologue hymnique, tout est en place, à la limite, tout est dit, et tout reste à dire. Tout reste à dire du point de vue, disons, de la manière dont les événements vont se dérouler pour donner un contenu concret d'incarnation à ce programme balisé dès le début du prologue. Même si tout donc est dit dès les 5 premiers versets du prologue hymnique, il faut encore ce prologue en son entier pour entrer dans la compréhension de ce que ces versets signifient, et même, à mesure que nous avançons dans le texte, pour comprendre le prologue hymnique, il faut avoir aussi un peu traversé l'ensemble du prologue narratif, délimité par le premier et le dernier témoignage de Jean. En fait, il n'y en a que deux, le premier et le deuxième, qui est aussi le dernier témoignage de Jean. Donc, il faut tout cela pour comprendre l'exacte portée, surtout de Jean. C'est quand même une question, n'est-ce pas ? Comme seuil à franchir pour passer de l'ancienne à la nouvelle alliance en Jésus. Dès la première Pâque de sa vie publique, Jésus se situe en priorité par rapport au temple de Jérusalem, donc de nouveau par rapport aux autorités juives qui régulent le bon fonctionnement de ce centre du culte juif à Jérusalem, en 2:13-25. Voilà pourquoi aussi, dès le début de sa vie vraiment publique et non à sa fin comme chez les synoptiques, Jésus fait le ménage du temple, puisque, d'une part, le sanctuaire, c'est son corps, et que le temple, c'est non moins que la maison de son père. Jean place donc en tête au commencement de la vie publique, après le commencement des signes à Cana de la Galilée, ce que les synoptiques racontent comme un des événements de la vie de Jésus. Commencement des signes à Cana, donc conclusion de cet épisode en 2:11-12. Et le quatrième évangéliste prend également soin très vite d'expliciter à la lumière de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine ce qu'il en est de l'adoration du Père en esprit et vérité. Cœur de ce grand texte de Jean 4, 3b à 45, mais cœur aussi de l'Alliance, puisque c'est une évocation positive du premier commandement du Décalogue, cœur de l'alliance nouvelle aussi que Jésus réalise. Parce que le Verbe fait chair est à l'origine de tout comme Verbe créateur du Père, il met par la suite en œuvre son autorité créatrice sur les corps, en faveur du fils de l'officier royal et du paralytique de la piscine de Bethesda. Donc, ce sont des textes que nous n'avons pas le temps de voir. Mais donc, après la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, Jésus remonte à Cana de la Galilée pour le seul autre signe qui soit chiffré, le second signe à Cana de la Galilée, et c'est le premier miracle, pourrait-on dire, de guérison, mais qui est un signe pour le quatrième évangile, qui ne reprend pas la terminologie des dunameis, gestes de puissance des synoptiques. Et d'une manière qui est de plus en plus, me semble-t-il, compréhensible, si on fait droit à tout ce qui est de l'ordre de montage de l'auteur du quatrième évangile par rapport à la vie de Jésus, il n'est pas surprenant, encore que cela a été le ressort de beaucoup de recherches exégétiques du siècle dernier, il n'est pas étonnant de voir immédiatement et sans transition Jésus redescendre à Jérusalem pour faire en Judée, à Jérusalem, ce qu'il vient de faire en Galilée, dans le nord, c'est-à-dire guérir un homme paralysé depuis 38 ans. Et ça, je crois que c'est important à bien reconnaître, n'est-ce pas ? Toutes ces allées et venues propres à Jésus, du sud au nord, et puis du nord au sud, au cours de ces 6 premiers chapitres de l'évangile de Jean, n'ont pour but, me semble-t-il, que d'honorer ce qui ne va arriver que finalement lors de la réunion du Sanhédrin après le retour à la vie de Lazare, mais il rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés dans son corps et en guérissant des corps. C'est tout à fait remarquable du point de vue anthropologique et théologique. Une fois de plus, donc, comme nous l'avions d'ailleurs vu à propos de ce premier signe à Cana de la Galilée, qui correspond alors du point de vue de Jérusalem au ménage du temple de 2, 13 à 25, une fois de plus, ce qu'il fait en termes de second signe à Cana où il avait déjà fait l'eau vin, il le fait à Jérusalem en guérissant le paralysé à la piscine de Bethesda près du temple. Le point délicat, c'est qu'il opère cette guérison le jour du sabbat. Je vais y revenir dans un instant. Mais donc, paradoxalement, parce qu'il se révèle ainsi vie et résurrection des morts dans sa proximité aux plus faibles, aux faiblissants, dit le texte, atteint d'asthénie, asthénuntas, il est aussitôt menacé de mort. Il guérit, il ramène à la vie quelqu'un qui est paralysé depuis, au fond, les 38 ans évoquent vraisemblablement la durée de la traversée du peuple dans le désert, n'est-ce pas ? Et cela lui vaut une condamnation à mort. À travers l'incompréhension juive, me semble-t-il, c'est très important de le souligner, c'est l'incompréhension humaine, donc notre incompréhension à tous, qui se manifeste de la sorte à l'égard du maître de la vie et de la mort. Il vient dans ses choses propres, et les gens, et ces gens propres, ne l'accueillent pas. Voilà. Alors ça ne peut pas se passer ailleurs que dans un peuple et dans des lieux bien déterminés, mais à travers ce qui se passe ainsi dans l'histoire, c'est en quelque sorte l'humanité tout entière qui se trouve concernée et interpellée. Et ce qui est aussi très impressionnant, ce n'est pas le propre de Jean, c'est aussi un peu le propre de toute la Bible, cette sorte de paradoxe qui consiste en une réaction de mort sur des lieux où rejaillit la vie,
n'est pas expliqué. Parce que c'est inexplicable. Il y a là, disons, pris à bras le corps, si j'ose dire, le paradoxe de la condition humaine qui est à vérifier. Chacun est en quelque sorte renvoyé à vérifier cela dans sa propre vie. Les choses se sont passées ainsi et continuent de se passer de la même manière selon l'optique du quatrième évangile. Il faut en prendre acte et essayer d'entrer autant que possible dans l'intelligence de cette réalité de fait par la foi. Laissez en quelque sorte Dieu lui-même en son Fils nous éclairer sur ce paradoxe. Comme je viens de l'évoquer, la question se corse quand l'événement se déroule le jour du sabbat. En milieu chrétien, nous risquons toujours de minimiser ce précepte du sabbat. Et toutes les discussions à l'heure actuelle aussi, en France ou ailleurs, sur le précepte dominical, n'est-ce pas, montrent bien que, voilà, il n'est pas facile d'entrer dans cette optique, finalement, d'une conciliation entre le travail et l'intérêt lié au travail et finalement la suspension de son travail, de son projet de vie. Or, ceci est capital du point de vue de la révélation biblique. Le sabbat, le précepte du sabbat, est au centre du décalogue, des 10 paroles qui servent en quelque sorte de charte dans l'Alliance. Dans sa version du Deutéronome, sans doute plus ancienne, le sabbat figure comme mémoire de l'esclavage égyptien. Il faut en quelque sorte laisser même les membres de son personnel domestique se reposer le jour du sabbat pour justement se rappeler qu'il faut être libre dans l'existence. Le peuple a été en esclavage en Égypte. Le sabbat rappelle cette situation d'esclavage qui a duré un certain temps, mais qui est surtout l'occasion d'un acte de libération du Seigneur par la sortie d'Égypte. Alors, en même temps, ça m'a frappé parce que nous sommes en train d'étudier ça dans un séminaire de deuxième cycle, les 6 jours de la création et le 7e de Genèse 1, 1, 2, 4, A, donc le grand premier récit de la création en Genèse, ces 6 jours de la création et le 7e sont quand même également rappelés dans le précepte du sabbat selon le Deutéronome. On insiste sur l'événement de la libération d'Égypte, de l'esclavage, mais c'est quand même aussi en rappelant le calendrier de Genèse 1. Dans sa version de l'Exode, dite sacerdotale, plus récente, le sabbat est essentiellement alors rappel de l'arrêt par Dieu de sa création, le 7e jour de la semaine inaugurale en Genèse 2, 1, 4, A. Alors, là, justement, dans cette maison aussi, il y a des cours consacrés à la création, etc., à l'avenir de la création. Donc, je me permets de préciser un petit peu ma propre optique dans ce domaine. L'œuvre de Dieu peut être prolongée et actualisée. La création peut se continuer grâce au génie de l'homme, parce qu'il y a quelque chose d'eschatologique, une promesse d'avenir dans ce récit de la création. Et donc cette insistance sur la portée eschatologique d'une création toujours à venir est certainement légitime et utile. Ça nous ajuste le regard sur ce texte de telle sorte que nous ne le comprenions pas simplement de manière archéologique, comme une sorte de rappel du passé, un passé d'ailleurs indéfinissable, parce que la création n'est pas du passé, elle est de maintenant, elle est permanente, elle est hic et nunc, ici et maintenant. Et donc, cette insistance sur ce qui est encore à, en quelque sorte, accomplir de la création déjà mise en place, ne peut pas oblitérer ce qui est quand même, me semble-t-il, au cœur de la préoccupation de ces auteurs de Genèse 1 et de Genèse 2, c'est de suggérer que cette création, parce qu'elle est œuvre de Dieu, tient. Elle est quand même affectée d'un caractère de perfection. On peut essayer, bah encore l'actualité la plus actuelle nous le rappelle, on peut essayer quand même, n'est-ce pas, par toutes les précautions météorologiques possibles, d'éviter les typhons et les ouragans, hein, mais nous n'avons pas de prise sur la succession du jour et de la nuit et sur la succession des saisons, par exemple, hein, et sur tout ce qui, en quelque sorte, dans la gestion de la création, relève finalement d'un don premier qui est d'abord à recevoir en tant que tel. Et donc, dans ce cas, le sabbat exprime que toute œuvre humaine est suspendue à l'œuvre divine. Voilà le cœur de ce précepte, n'est-ce pas ? Et pourquoi ? Parce que si le projet humain n'est pas suspendu au projet de Dieu, l'homme, l'humanité, verse dans l'idolâtrie. On va substituer à ce projet de Dieu, reconnu comme primordial, toutes sortes de raisons pour, à la limite, ne pas respecter le sabbat et donc, au fond, s'affranchir de sa condition de créature. Et surtout pour le récit de l'Exode, s'affranchir aussi de sa condition d'être humain toujours en état de se libérer. Hein. C'est ça l'événement de la libération de l'esclavage égyptien. Dans chacune de ces traditions, du Deutéronome et de l'Exode, le précepte qui est un commandement sur le sabbat est le précepte le plus long, le plus développé et le plus justifié. Le sabbat est donc au cœur de la loi. Et c'est là, certainement, que le quatrième évangile veut en venir, comme sans doute, d'abord et avant tout, Jésus lui-même. Le sabbat récapitule et concentre la loi tout entière. Toucher au sabbat, ou sembler y toucher pour le contester ou en détourner, c'est atteindre le centre du dispositif législatif du judaïsme. Pourquoi ? Ben, je viens d'essayer de le dire, je le dis encore autrement maintenant parce que ça me semble capital. Le sabbat rythme le temps. Le sabbat structure le temps et donc aussi, dans la foi juive, les fêtes liturgiques. Les grandes fêtes s'étalent sur une semaine et elles se concluent toutes par le sabbat de Pâques. Il en est fortement question au moment de la mort de Jésus. Mais c'est aussi un sabbat qui conclut la fête de la Pentecôte, Shavuot, hein, le don de la Torah, hein, 50 jours après Pâques. Les tentes, Soukhot, fête d'automne. Ou de Hanouka, la fête de la dédicace du temple reconstruit après l'exil, comme en décembre de notre calendrier. Et toutes ces fêtes vont être passées en revue, précisément. Dans le quatrième évangile, nous allons le voir dans un instant. Et ensuite, et corrélativement, je crois que là, il faut vraiment y insister, le sabbat est destiné à sanctifier le temps, pas simplement à le respecter dans sa dimension liturgique, mais précisément pour ce faire, le sabbat est destiné à faire du temps un temps saint, de la sainteté même de Dieu à qui l'on réserve le droit de se rendre plus explicitement présent dans le monde et dans l'histoire par le sabbat. Magnifique livre de Abraham Heschel, n'est-ce pas ? Le sabbat où les bâtisseurs du temps, les juifs ont très fort ce sens de la temporalité. Et donc c'est un principe de symbolisation du temps humain pour en faire le temps de Dieu, ce qu'il est de toute façon à la lumière de la création. Les prophètes critiqueront toute subversion du sabbat et donc du temps comme temps liturgique par les rois d'Israël ou de Juda, parce que cette subversion du sabbat signifie un relâchement dans l'observance de la loi, c'est-à-dire de la fidélité à la volonté de Dieu. Au temps de Jésus, l'école de Shammai est plus rigoriste, celle de Hillel plus souple, et Jésus se range sans doute parmi les observants plus flexibles de la loi, mais en tout état de cause, et voilà où je veux en venir, Jésus ne vient jamais délier le sabbat, alors que c'est le premier chef d'accusation qui vient après la guérison du paralytique à la piscine de Bethesda. Dans la guérison du paralytique, en Jean 5, Jésus prétend bien manifester le vrai sens du sabbat en se révélant ainsi le Fils. Et le premier grand discours qui suit immédiatement cette guérison, que l'on appelle souvent le discours sur l'œuvre du Fils, que je préfère appeler le discours de la parole, du verbe qui argumente, Jésus cherche à se disculper par rapport aux deux chefs d'accusation qui lui sont très vite appliqués. Un, comme je viens de le dire, de délier le sabbat. Deux, de dire Dieu son propre Père en se faisant lui-même égal à Dieu. J'ai cité 5:18, conclusion de la deuxième guérison, celle qui a lieu à Jérusalem. Nous l'avons vu en Jean 4, 3b-45, Jésus valorise anticipement le premier et le deuxième commandement du décalogue en soulignant l'importance d'adorer Dieu, compris comme Père en esprit et vérité. La formulation est trinitaire. Avant le sabbat et comme son fondement, dans le second signe à Cana de la Galilée, en Jean 4, 46, 54, il met en exercice le commandement d'honorer père et mère après le sabbat, en exaucant le vœu du père éploré de son fils épileptique. Et dans le premier grand discours de Jean 5, 19 à 47, Jésus déjoue l'accusation du faux témoignage qui fait aussi partie du décalogue. Tu ne témoigneras pas à faux. Et on voit bien qu'il y a une correspondance entre ce commandement et celui qui arrive plutôt du côté des commandements à l'égard de Dieu. Tu ne feras pas de faux serments. Alors, le point capital qui m'apparaît de plus en plus, c'est que ce premier discours de Jésus, c'est un discours dans un procès. Il se défend de deux chefs d'accusation qui, dans son esprit, et en tout cas dans celui de l'évangéliste qui nous rapporte ce discours, qui est une création, ce n'est pas un enregistrement sur tape record. Voilà, il est très vite en position d'accuser dans un procès. Et ça va très loin parce qu'il est aussitôt condamné à mort pour ces deux chefs d'accusation, puisque ce sont des chefs d'accusation majeurs. Délier le sabbat, c'est délier la loi. Se faire soi-même Dieu, c'est l'idolâtrie caractérisée. Donc, son compte est bon. Alors, il reprend les articulations du procès dans l'Alliance. Nous n'avons pas le temps de le voir dans le détail, mais Voilà, il cherche à montrer que, de son côté, il communique son autorité sur la création en guérissant le jour du sabbat sans enfreindre le précepte du sabbat et sans violer la loi. Donc, Jésus est condamné à mort très vite, paradoxalement, parce qu'il se révèle le maître de la vie. Donc aussi, ce n'est pas une expression de Jean, c'est plutôt une expression de Marc, maître du sabbat, fils du Père, source de toute vie en son humanité même. Voilà pourquoi le premier long discours du Verbe fait chair est un plaidoyer pro domo dans le cadre d'un procès qui trouve déjà son issue avant qu'il ne parle et que sa parole ne parvient pas à enrayer. Les chefs d'accusation ne sont pas levés. Ils anticipent déjà la passion à la fin de sa vie. Alors, le point capital dans cette question, et à la lumière de ce premier discours que je vous invite à relire lors de vos nombreuses heures de loisirs, n'est-ce pas ? Jésus ne répond jamais à l'accusation qui le met à mort en accusant à son tour. Mais il déploie les implications de ce qui se passe. Il est condamné sans raison. Cela reviendra au cœur du discours de la scène en Jean 15, 25. Il se défend à parole nue, sans violence. En fait, il est indemne de toute violation de la loi sabbatique. Ses adversaires ne peuvent apparemment pas comprendre en s'en tenant aux apparences qui peuvent paraître en effet provocantes. Et, comme toujours dans le quatrième évangile, dans tout le corpus johannique, c'est une question de croire. La loi est à croire pour être mise en pratique. Et ce que l'évangile montre, certainement, c'est que cette loi qui est faite pour la vie se retourne contre le maître de la vie quand elle n'est pas au service de la vie. Ça, sûrement. C'est ce que l'évangéliste cherche à faire comprendre en signalant les réactions que Jésus suscite autour de lui. La loi sauve quand elle est au service de la vie. Elle condamne en tuant le maître de la vie quand elle est trop au service d'institutions qui sont faites pour la vie, mais qui peuvent se pervertir quand elles se durcissent. Paul le dit aussi, mais autrement, de manière peut-être plus spéculative. Et, alors, le point que je souligne aussi, c'est que l'enseignement ne concerne pas seulement, ni même d'abord, le judaïsme, mais au premier chef, la communauté chrétienne elle-même. Les chrétiens l'apprennent à leurs dépens quand ils se referment sur les mêmes étroitesses que celles qui ont mis Jésus à mort, et qui continue de le faire à n'y prendre pas garde. Et alors voilà le point, n'est-ce pas ? Parce qu'on arrive progressivement, mais assez vite, dans ce que l'on appelle l'anti-judaïsme ou même l'antisémitisme johannique, n'est-ce pas ? Or, ces textes n'accablent personne. Ils sont destinés à éclairer toute conscience humaine et religieuse en particulier. Ils sont animés d'une forte teneur sapientielle destinée à favoriser le discernement. La question n'est pas de savoir qui est coupable, la question est de me situer en vérité par rapport à ce que je vois vivre par Jésus. C'est le but de l'évangile. Le discours du Fils ou du Verbe nous transporte donc déjà du commencement par où s'ouvre le prologue hymnique à la fin en termes de résurrection. De même que le Père relève des morts et les vivifie, Ainsi aussi le Fils, ce qu'il veut, il les vivifie. Je cite 5:21. Car, dit-il, verset suivant, 5:22, le Père ne juge personne. Mais tout jugement, il l'a donné au Fils. Alors, si le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, il ne va pas davantage juger. Le Fils ne fait rien qu'il ne voit faire au Père, donc il ne juge pas davantage. Pour sauver, il condamne le mal. J'ai souligné cela la dernière fois, à la lumière du dernier passage sur le dialogue entre Jésus et Nicodème. Pour sauver, il condamne le mal, le péché, l'auteur du péché, mais sans jamais condamner personne. De nouveau donc, comme après les 5 premiers versets du prologue hymnique, les jeux sont faits. Ça va toujours très vite dans l'évangile de Jean. À la limite, la Pâque est accomplie. Mais ce n'est encore que la première Pâque de Jésus. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, ce soir, avec le chapitre 6, nous entrons dans la deuxième Pâque, 6-4. C'est une des raisons possibles pour laquelle le quatrième évangile place ici, et non plus tard, lors de la troisième et dernière Pâque, ce qu'il veut signifier du sacrement de l'Alliance nouvelle, l'Eucharistie. Mais c'est ça qui est à comprendre. Pourquoi fait-il cela? Il prend apparemment des libertés par rapport à la tradition synoptique. Mais enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut faire comprendre? La question de l'interprétation, n'est-ce pas? C'est en pleine vie publique, au centre des 3 ans de sa vie publique, et non pas au terme de sa vie, selon Jean, que Jésus institue l'Eucharistie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, en tout cas, cette optique permettra de dire encore d'autres choses à l'occasion de la troisième et dernière Pâque, hein, avec le lavement des pieds, avec le don de la bouchée à Judas, avec le long discours de la scène et la prière qui conclut en Jean 17. Hein. C'est supposé à qui l'Eucharistie, à ce moment-là. À ce moment, il s'agira, et Madame Hernandez nous le montrera, je crois, magistralement, de procéder à l'amour jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, comme qu'elle traduit, jusqu'à achèvement, eistélos, pour reprendre le terme de Jean, pour donner son contenu premier et ultime à l'Eucharistie. Et donc, Jean transmet la tradition johannique sur l'Eucharistie avec l'événement des pains, qui est pratiquement donc le quatrième signe, si on fait le compte, 1, Cana 1, 2, Cana 2, 3, le paralytique à Bethesda, 4, les pains. Pour le dire tout de suite, 5, la marche sur les eaux. Et nous allons voir ça sur pièce tout de suite. Le discours sur le pain de vie vient exprimer positivement la réponse de Jésus en actes et en paroles à l'accusation et à la condamnation à mort dont il est injustement l'objet et dont il n'est pas parvenu à se disculper. Et voilà ce qu'est l'Eucharistie. Et nous allons le voir aussi, j'ai choisi donc, après le Jean 6, d'arriver à un autre texte de procès, peut-être un des chapitres, enfin peut-être sûrement le chapitre le plus difficile de Jean, qui est aussi un procès. Donc l'Eucharistie se noue en plein contexte de procès. Ah ben ça c'est exactement ce qui se passe dans les relations des synoptiques. Et c'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la réponse de Jésus en termes de don total de soi quand il est rejeté. Très impressionnant. Et cela prend un relief étonnant dans l'évangile de Jean, précisément parce que c'est là-dessus que le quatrième évangéliste veut nous faire réfléchir.
Jésus se donne corps et sang dans l'Eucharistie à la fin de sa vie, selon les synoptiques. Pour Jean, c'est dès le don des pains au bord du lac de Tibériade, en Galilée, dans le cadre de ce que l'on a appelé, à juste titre, la crise galiléenne du ministère de Jésus. Car nous allons le voir, très paradoxalement aussi, ce don qui culmine dans le pain de la vie selon ses implications eucharistiques, débouche sur un désistement massif des disciples. Il n'est plus suivi que par quelques-uns, dont Pierre, qui témoigne de sa foi au nom de tous. Donc on va de paradoxe en paradoxe, n'est-ce pas ? Jésus, selon Jean, n'attend donc pas la crise ultime de son procès et de sa condamnation dans le cadre de la Passion pour répondre par le don total de soi à l'antidon de la trahison de son disciple, des autres disciples et en définitive de tous les hommes qui s'y trouvent impliqués. Il répond dès maintenant par et dans le don de soi comme d'un pain, d'une nourriture substantielle à la condamnation dont il est injustement l'objet. C'est la raison pour laquelle je voudrais essayer de faire en sorte que nous puissions lire maintenant Jean 6 in extenso, à un rythme un peu soutenu. Donc, accrochez vos ceintures, à vos ceintures, nous allons essayer de lire Jean 6 d'une traite. C'est le plus long chapitre de tout l'Évangile, 71 versets. Il conclut donc la première section de 16 allées et venues du nord au sud, du sud au nord, de 1,19 à 6,71. Et il s'ouvre donc sur, au fond, le récit des pains qui manifeste à quel point il conclut l'alliance. Et il conclut l'alliance, ce qui est si souvent le cas aussi dans l'Ancien Testament, sur l'arrière-fond d'une rupture d'alliance. On le condamne à mort. Que fait-il ? Il se donne totalement lui-même. Vous avez le texte traduit par votre humble serviteur, dans un mauvais français, parce que le grec original est un mauvais grec aussi, mais pour ne laisser échapper aucune nuance importante. Après ces choses, la même formule était employée pour le deuxième témoignage de Jean, après la rencontre de Jésus et de Nicodème, et puis en 5.1, après le second signe de Cana, pour introduire la scène du paralytique à la piscine de Bethesda. Donc, expression conclusive, après ces choses. Donc, on en est à un moment, disons, de conclusion. Il s'éloigna Jésus, au-delà de la mer de la Galilée, de la Tibériade. Alors, il faut se débrouiller avec ça. Je vous ai aussi photocopié une carte qui veut vous donner quelques points de repère. Où sommes-nous ? Alors, on ne sait pas. Ce n'est pas très bien. Alors, bon, au-delà, Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait, maintenant c'est clair, on sait que c'est vraiment sur la rive de la Transjordanie, donc en dehors de la terre des promesses. Ici, où sommes-nous par rapport à la mer de Galilée, donc là, le lac de Galilée, comme on dit, n'est-ce pas, avec deux précisions, de la Galilée, de la Tibériade. Alors, Tibériade, c'est un nom de ville. Un nom de ville, d'ailleurs, pour le dire rapidement, construite par Tibère, l'empereur, sur un cimetière juif, ce qui est évidemment scandaleux pour la conscience juive. Donc, Jésus, voilà, se trouve dans des lieux un peu scabreux, n'est-ce pas ? Mais, normalement, au-delà de la mer de la Galilée, de la Tibériade, par rapport où nous étions à Jérusalem, avec le discours sur l'œuvre du Fils qui conclut le chapitre 5, ça devrait donc plutôt être du côté de la rive orientale du lac de Tibériade. Mais c'est un peu compliqué. Comment est-ce que ça l'aurait obligé alors à retraverser le Jourdain et puis à remonter sur la rive païenne? Voilà. Alors, quand on se trouve dans un tel embarras, qui va être progressivement levé, ne vous inquiétez pas, mais enfin, il faut se dire, bon, ce qui n'est pas clair, c'est ce qui n'est pas essentiel. Ce qui est clair et ce qui est très important, c'est de nouveau cette évocation de la mer. Et il va en être question longuement après la multiplication des pains, comme on dit habituellement, avec la marche de Jésus sur la mer. On évoque donc avec la mer l'élément menaçant. Hein. Souvent, c'est un lieu de force hostile. Le suivait une foule nombreuse parce qu'il contemplait les signes qu'il faisait sur les malades, sur les faiblissants. Ah, maintenant, c'est plus quelques-uns, hein, c'est une foule nombreuse. Et en général, quand le terme est employé, c'est une foule bigarrée, n'est-ce pas? Il n'y a pas que des Juifs, là. On est dans un territoire un peu limitrophe, au nord du lac de Tibériade. Il gravit la montagne, autre précision très importante. Hein. La montagne, en général, c'est le lieu de la rencontre de Dieu, hein. Le Sinaï, éventuellement le mont Sion à Jérusalem. Jésus, et là, il s'asseyait avec ses disciples, on prend le soin de vous le dire, c'est pas innocent non plus, sans doute, n'est-ce pas? Donc, le moment est solennel. Et voilà, au verset 4, la deuxième Pâque. Elle était proche, la Pâque, la fête des Juifs. On disait précédemment la Pâque des Juifs, la Tope traduisait la Pâque juive. Ici, c'est plus insistant, la Pâque, la fête des Juifs. Il avait été aussi question d'une fête au chapitre 5, c'est vraisemblablement la fête de la Pentecôte de l'année précédente. Donc il y a un bond qui est fait de l'année précédente à l'année où nous sommes. Hein. On a pratiquement enjambé automne, hiver, printemps. La Pâque est au printemps, fête de printemps. Ayant donc levé les yeux, Jésus, il n'y a qu'un seul autre texte qui parle de ce geste, c'est la grande prière conclusive des chapitres 13 à 17, en 17.1, quand Jésus lève les yeux vers le Père. Donc, autre petit élément qui indique qu'on est, comme en Jean 17, en un moment de conclusion. Et ayant admiré qu'une nombreuse foule vient en direction de lui, il dit... Philippe, d'où pouvons-nous acheter des pains afin qu'ils mangent ceci? Cela, il le disait en l'éprouvant, car lui-même savait ce qu'il était sur le point de faire. La mise à l'épreuve de la part de Jésus à l'égard des disciples. Oh, mais ça, c'est aussi plein de réminiscences. La grande épreuve dans l'Ancien Testament, c'est la ligature d'Isaac, hein? Dieu qui demande le fils de la promesse à Abraham. Puis c'est aussi ce qui rappelle l'Exode, Exode 15, 25, hein, passage de la mer. La mer. Et alors le rappel, qui reviendra aussi, en particulier au moment des événements de la Passion, la conscience de Jésus, qui évoque vraisemblablement quelque chose de l'ordre de ça. Conscience messianique. Il savait ce qu'il était sur le point de faire. Je peux passer rapidement sur la suite. Il lui répondit, Philippe. Donc, les disciples sont impliqués. Hein. Jésus ne va rien faire ici de sa propre initiative. Il consulte. Et il consulte Philippe et André. Et en les consultant, il obtient deux réponses contrastées. De 200 deniers, des pains ne suffisent pas pour eux afin que chacun reçoive quelque peu. Donc, réaction plutôt de scepticisme, mais enfin,
Voilà. C'est une réflexion de comptable. Hein. Il faudrait peut-être essayer, dans cette optique, de voir ce qui est possible, hein. Combien de deniers dispose-t-on avec cette foule. Mais enfin, de toute façon, le compte risque d'être assez court et c'est peut-être pas la peine de commencer. Il lui dit, un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, et on voit aussi, on rappelle les premières vocations, voyez, donc on est aussi à un moment conclusif du point de vue de la relation entre Jésus et ses disciples. Il y a ici un jeune enfant qui a 5 pains d'orge, une précision qu'on trouve dans le Deutéronome, dans le livre de Ruth, le livre des rois, donc voilà, 5 pains d'orge, hein, et 2 petits poissons. Hein. La culture, le pain, et la nature, les poissons. Là, voilà. Et les pains, c'est pas la baguette, hein, c'est toute nourriture solide. Hein, c'est voilà. Mais qu'est-ce que pour tant de gens? Enfin, on a quand même quelque chose, donc on va peut-être quand même essayer. Faites s'allonger les hommes, tous anthropos, la foule, femmes, hommes confondus, et cependant, il y avait une herbe nombreuse dans le lieu, ils s'allongèrent donc les hommes. Hoi Andres, on ne dit pas ce que font les femmes, mais les hommes s'allongent au nombre d'environ 5000, et ceci évoque peut-être quelque chose de l'ordre d'une armée rangée en bataille. C'est pas, il y a une sorte de... voilà. De dispositif qui est adopté. Il prie donc, et voilà le verset clé pour l'Eucharistie, il prie donc les pains Jésus, kai eucharistessas, le verbe de l'Eucharistie, ayant rendu grâce, il distribua aux reposants et semblablement des petits poissons autant qu'ils en voulaient. Pas plus qu'à Cana de la Galilée, on vous dit comment les choses se passent. Mais voilà le point focal qui donne une connotation eucharistique sans équivoque, encore que elliptique et sous-entendue à l'événement. Et ce que le texte souligne, comme il le soulignait déjà pour les signes précédents, en particulier pour le signe de Cana, la noce, à Cana de la Galilée, la surabondance. Comme ils furent comblés, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux surabondants afin que pas même quelque chose ne se perde. Ils rassemblèrent donc, ils remplirent 12 couffins de morceaux des 5 pains d'orge qui surabondèrent pour ceux qui s'étaient nourris. Donc les verbes rassembler, être rassasié, ce sont des verbes que l'on trouve notamment dans le chapitre 16 de l'Exode pour la manne. Ça va revenir dans le discours sur le pain de vie. L'évocation de la nourriture reçue par le Seigneur du côté du peuple dans la traversée du désert. Les réminiscences sont assez nettes aussi. Donc, les hommes ayant donc vu ce qu'il avait fait, un signe disait que celui-ci est vraiment le prophète, celui qui vient dans le monde. Ah, ben, réaction assez positive. Oui, mais aussitôt affecté d'un caractère négatif, Jésus ayant connu qu'ils sont sur le point de venir et de le ravir afin qu'il le fasse roi, s'en alla de nouveau vers la montagne, lui seul. Donc, deuxième mention de la montagne. Et je partage l'avis de ceux qui pensent qu'avec cette évocation de la montagne, il n'y a pas seulement l'évocation du Sinaï, ça c'est pour, en quelque sorte, les réminiscences de l'Alliance dans l'Exode, mais il y a aussi la montagne du festin messianique, chez les prophètes, en particulier Isaïe 25, 1 à 3. Donc il y a une concentration de beaucoup de réminiscences de l'Ancien Testament qui font comprendre qu'on est à un moment, disons, clé de l'histoire de Jésus. Et alors, voilà le point que je souligne toujours aussi, parce que c'est constant dans les traditions synoptiques également, la l'événement des pains, je préfère ne pas parler de multiplication des pains parce que ça fait un peu signe extraordinaire, n'est-ce pas? Non, il a nourri des foules. Donc l'événement des pains est immédiatement suivi d'un événement, on pourrait dire, d'épreuve. Abondance le matin, épreuve la nuit. Comme une heure vespérale de vin, ils descendirent ses disciples vers la mer. Et voilà, on voulait vous parler de la mer. Étant montés dans un bateau, ils venaient au-delà de la mer vers Capharnaüm. Ça c'est une bonne indication. Donc, on ne sait pas très bien comment, mais enfin, ils devaient, dans cette optique-là, se trouver sur la rive occidentale du lac. Capharnaüm, vous voyez, c'est la raison pour laquelle j'ai aussi donné la carte, et vous remarquez qu'il y a une petite erreur là, c'est pas Capharnaüm, c'est Capharnaüm, il y a une métathèse du R là, il faut la resituer. Bon, je me suis rendu compte de ça en travaillant la petite carte là. Et alors, une ténèbre était devenue, et pas encore, il n'était venu auprès de Jésus, et la mer, on y insiste, un grand vent soufflant se soulevait. Ayant donc ramé environ 25 ou 30 stades, il contemple Jésus marchant sur la mer et devenant proche du bateau, et il craignirent. Ce qui ne veut pas nécessairement d'abord et avant tout avoir. Ils n'ont pas d'abord peur. Ils sont pris d'une crainte. Bon, il y a la crainte révérentielle et la crainte servile. On distingue ça dans la littérature spirituelle aussi. Non, ils sont mis devant un phénomène, disons, qui met en cause la transcendance. Et il leur dit « ego eimi », quelque chose de théophanique là-dedans, « ne craignez pas ». Et ça, c'est en quelque sorte le leitmotiv des oracles de salut chez les prophètes. Il voulait donc le prendre vers le bateau, et tout aussitôt le bateau devint sur la terre vers laquelle il partait. Voilà. Un enseignement majeur. Ne pas craindre même quand apparemment Jésus n'est pas là. Ça fait partie, je crois, d'une véritable pédagogie de Jésus dans ses traditions sur les pains et sur la marche sur les eaux. Et de nouveau, une pédagogie de foi. Le lendemain, on retrouve cette expression qui avait aussi scandé les premiers jours dans le chapitre 1. La foule, celle qui s'était tenue au-delà de la mer, vit qu'une autre barque n'était pas là, sinon une, et qu'il n'était pas venu avec ses disciples Jésus dans le bateau, mais seuls ses disciples s'étaient éloignés. De nouveau, au-delà de la mer, c'est pas très très bien où ça se trouve, et donc il faut attendre le verset 23. « Vinrent des bateaux de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, le Seigneur ayant rendu grâce. » Donc on veut vraiment de nouveau insister sur la portée eucharistique de l'événement. « Quand donc elle vit la foule que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, ils montèrent dans les barques. » Et donc, puisqu'on a parlé de Capharnaüm, qu'on reparle de Tibériade, il est très possible que l'événement dont il est question, cette fameuse marche sur les eaux d'un lac de Tibériade tourmenté par une tempête, se soit passé, non pas tellement, n'est-ce pas, d'une traversée d'une rive à l'autre, mais de Capharnaüm à Tibériade. Donc, en passant par ce bras de mer qui nous fait passer par Tabgha, Magdala, etc. Donc voilà. Et comme il est 6 heures, eh bien, nous respirons un peu, mais pas trop. 10 minutes. Parce que nous avons encore du pain sur la planche, c'est le cas de le dire.
avec cette marche de Jésus sur les eaux, nous sommes vraisemblablement devant un nouveau cas de prolepse. Hein. La meilleure manière d'expliquer le texte, me semble-t-il, c'est de l'éclairer déjà anticipativement de la lumière de Pâques. Hein. C'est celui qui peut dire absolument « moi, je suis » qui se rend présent. D'autre part, pourquoi cette insistance au fond sur cette conciliation des contraires de nouveau, n'est-ce pas, de type sapientiel entre l'abondance le matin et la panique le soir. Eh bien, compte tenu de ce qui m'apparaît vraiment de plus en plus et que j'ai essayé déjà de formuler tout à l'heure, Jésus lui-même est en pleine tempête déjà, n'est-ce pas? Et donc, il fait participer à ses disciples la situation qu'il vit. Hein. Il est déjà en situation de condamné à mort. Alors, abondance des pains, très bien. Mais donc maintenant, il faut aussi s'expliquer sur ces pains. Et... je ne vais évidemment pas faire une étude trop détaillée de la suite du chapitre. Je me contenterai d'abord de relever les points essentiels, compte tenu aussi d'un minimum de problématiques sur ce grand discours sur le pain de vie, ce qui m'apparaît vraiment le plus important. Le plus important, c'est de maintenir l'unité de ce discours dans ses différentes composantes. Là, pour le coup, il n'y a aucune hésitation, c'est un discours prononcé par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. Ce n'est peut-être pas très explicite au départ, mais c'est très explicite à la fin. Au départ, on sait qu'en tout cas qu'on est à Capharnaüm, verset 24b, Capharnaüm, le village du consolé, hein, vraisemblablement, d'après l'étymologie. Le lieu de Pierre, hein, c'est aussi un peu le rendez-vous de tous les périples de Jésus en Galilée. Et c'est à la conclusion du chapitre, du verset 59 de ce discours, qu'il est dit clairement que ces choses, il les dit en synagogue, enseignant en Capharnaüm. Donc avec le verbe enseigner, qui est le verbe de la Torah, hein, il dispense sa Torah, son enseignement, la didaké. Hein. Et comme je le disais, l'important, alors que justement, il y a eu beaucoup de discussions, n'est-ce pas, sur... différents remaniements de ce discours, pour beaucoup, grosso modo, les versets conclusifs 52 à 59, qui sont de facture eucharistique explicite, puisque à certains moments, nous allons nous en expliquer rapidement, mais enfin, ma chair est vraie nourriture, mon sang est vraie boisson, au verset 55, donc c'est... un texte qui nous transmet, comme je le disais tout à l'heure, ce que Jean veut nous transmettre sur l'Eucharistie. Et nous verrons que sa version de l'Eucharistie est complémentaire de celle des synoptiques. Une autre version, une version plus, on pourrait dire, existentielle, moins rituelle. Mais donc on a beaucoup, enfin surtout dans le dialogue écuménique, mis ces versets eucharistiques au compte d'une rédaction de ce que l'on appelle le catholicisme primitif, n'est-ce pas, le Frühkatholizismus, pour prendre l'expression allemande. Et donc le noyau dur du discours, ce serait surtout le début qui est tout à l'enseigne de la foi, hein. Donc toute la querelle confessionnelle entre foi et sacrement, ça peut avoir son incidence, mais pour ma part, je crois que justement, l'important, c'est de maintenir ensemble ces éléments qui, certainement, du côté du début, dans les versets 24b à 34, insistent sans aucun doute sur le croire. Le verset clé étant... mis typographiquement au cœur de ce premier développement, ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez
en celui qu'envoya celui-là. Alors, peut-être y a-t-il là une petite note de dialogue, sinon de polémique, avec l'apôtre Paul, hein, qui oppose aussi souvent la foi et les œuvres. Pour Jean, l'œuvre par excellence, c'est pas l'œuvre de la loi, c'est pas les œuvres de l'auto-justification par la loi. L'œuvre par excellence, c'est croire. Et donc, on retrouve le point central de toute la théologie johannique, mise maintenant au compte de l'œuvre. Et souvent, l'œuvre, ergon, est à rapprocher de signe, semeion. Il n'y a que Jésus à faire des signes. Les croyants, non seulement peuvent faire les œuvres de Jésus, mais comme le dira le chapitre 14 du discours de la scène, peuvent même faire des œuvres plus grandes que les siennes. Dans la dynamique du croire. Et le croire est ici redéfini de nouveau, d'une part comme une œuvre, qui est à la fois du croyant et de Dieu en lui. Tout est de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, et en même temps, c'est le croire des croyants. Donc, il y a une synthèse remarquable, n'est-ce pas, qui ne laisse aucune place, pour le dire avec les mots de la tradition théologique et spirituelle, au quiétisme, hein, où donc il suffirait de laisser agir Dieu et sans engager sa liberté. Non, il faut vraiment, Dieu ne fera rien sans le croyant, n'est-ce pas? Mais d'autre part, le croyant ne fera rien sans Dieu, donc il n'y a aucun pélagianisme non plus, hein, il n'y a aucune manière d'envisager, ce qui est de l'ordre du croyant de telle manière que, ce soit comme indépendamment de Dieu. Alors, je reviens une fois avoir insisté sur ce point central, sur le petit développement qui l'entoure. Ils vinrent vers Capharnaüm cherchant Jésus et le trouvant au-delà de la mer. Donc, vraisemblablement, n'est-ce pas, au-delà de ce, où est-ce qu'elle est ma petite carte? Ben voilà, de ce bras de mer qui a fait passer de Tibériade à Capharnaüm. Hein? Il lui dit, Rabbi, quand es-tu devenu ici? Et au fond, n'est-ce pas, la question trouve son écho dans la dernière phrase prononcée au verset 34. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Alors, entre les deux, que se passe-t-il? Eh bien, petit reproche d'abord. Enfin, en tout cas, Jésus veut faire passer, au fond, du don au donateur. Hein? Amen, amen, je vous dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Œuvrez non la nourriture, celle qui se perd, mais la nourriture, celle qui demeure pour une vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui-ci, le Père, le scella, a mis son sceau sur lui, Dieu. Grand enjeu, n'est-ce pas? Grand enjeu. J'y repensais encore en voyant des articles consacrés à mon ami Franklin Armand de Haïti, n'est-ce pas? Voilà un homme qui passe sa vie à creuser des lacs pour que justement l'érosion soit mise en échec et que les gens puissent aussi à la fois irriguer leurs terres et même pouvoir se nourrir du poisson de ces lacs, n'est-ce pas? Oui, mais en même temps, on voit bien, vous donnez à manger aux gens, ils se contentent de ce que vous leur donnez à manger, hein, ils n'ont pas vu le signe que ça pouvait représenter du point de vue, disons, d'une intervention de Dieu dans ses témoins. Donc, l'enjeu est considérable. Hein. Ne pas s'en tenir au don de Dieu, mais remonter de ses dons à lui qui est source de tout don. Et ça, c'est le croire. Hein. Que pouvons-nous faire afin que nous œuvrions les œuvres de Dieu? Ça, c'est rigolo. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Eh bien, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'envoya celui-là. Les deux. Hein. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez l'articulation intrinsèque des deux. C'est l'alliance, ça. Hein, Dieu prend l'initiative gratuite, mais il faut qu'il y ait une réponse libre, sinon rien ne se passe. L'alliance ne se conclut pas, ne se vit pas.
Alors souvent, n'est-ce pas, une demande de signe vient trop tard, le signe a déjà été donné largement. Que fais-tu, toi, comme signe, afin que nous voyions et que nous croyions à toi? Qu'œuvres-tu? Et alors la référence, et on a pu penser, je crois légitimement, que cette première partie du discours sur le pain de vie est une sorte de commentaire sur la manne au désert, hein, Midrash de l'Exode. Nos pères, la manne, ils la mangèrent dans le désert, comme il est écrit, du pain du ciel, il leur donna à manger. Évocation d'Exode 16, 4, 15. Donc, amen, amen, je vous dis, non, Moïse vous a donné du pain du ciel. De nouveau, ne pas vous arrêter aux intermédiaires, aux médiations. Mais mon Père vous donne au présent le pain du ciel, le véritable, car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui la vie la donne au monde. Ah bon, alors il donne nous toujours ce pain. Bon, on voit bien un peu la réaction de la Samaritaine aussi, n'est-ce pas? Et ça c'est une technique johannique, c'est la technique du dialogue, hein, qui expose aussi à l'incompréhension, enfin, pour faire progresser le dialogue. Le centre du discours est occupé alors justement par la question d'identifier en quoi consiste exactement ce pain du ciel. Moi, je suis le pain de la vie, hein, comme l'eau vivante, hein, c'est la vie. Celui qui vient auprès de moi n'aura sûrement pas faim, celui qui croit en moi n'aura sûrement pas soif, jamais. Ah, donc, là aussi, il y a déjà des réminiscences de la sagesse, dans le Siracide, chapitre 24-21, hein, qui boit de la sagesse aura toujours soif, qui s'en nourrit aura toujours faim, donc ce n'est pas l'opposé. Ce que le verset souligne, c'est le caractère inépuisable, hein, à la fois du pain et de la sagesse, du pain qui est maintenant concrétisé, qui concrétise maintenant la sagesse. Mais je vous dis que vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Donc, pédagogie pour faire entrer au cœur du croire. Tout ce que me donne le Père auprès de moi arrivera, et celui qui vient auprès de moi, je ne le jetterai sûrement pas dehors, parce que je suis descendu du ciel, non afin que je fasse la volonté la mienne, mais la volonté de celui qui me manda. Il avait déjà dit que sa nourriture, c'est de faire la volonté du Père. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, disait-il aux disciples à leur retour auprès de lui, après le dialogue avec la Samaritaine. C'est ça qui maintenant est au cœur du développement. Ceci est la volonté de celui qui me manda, que tout ce qu'il m'a donné, je ne le perde pas. C'est le verbe de la perdition, opposé au salut, hein, au verbe sauver, mais que je le ressuscite au dernier jour, car cela est la volonté de mon Père, que tout qui contemple le Fils et qui croit en lui ait une vie éternelle, et que je le ressuscite, moi, au dernier jour. Et revient ce qui était déjà présent dans le premier grand discours, que nous n'avons pas vu en détail, le rapport à la résurrection. Et c'est une des premières notes caractéristiques de cette tradition johannique sur l'Eucharistie, son rapport à la résurrection. Il n'y a pas de pain eucharistique sans rapport à la résurrection du Fils. Blocage, hein, technique de l'incompréhension, hein. Missverständnis, comme disent les Allemands, n'est-ce pas? Ils murmuraient donc, les Juifs, qui rappellent les murmures du peuple dans le désert à son sujet, parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain qui descendit du ciel », et il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus,
le fils de Joseph. Seule et unique autre mention de ce titre qui était apparue en 1,45 dans le dialogue entre Philippe et Nathanaël, dont nous savons le papa et la maman, hein, qu'est-ce qu'il nous raconte là, le pain du ciel, enfin on est en pleine mythologie, n'est-ce pas, en pleine imaginaire, en pleine illusion. Comment maintenant dit-il que du ciel je suis descendu? Alors c'est toujours l'occasion justement d'un rebondissement, hein. Ne murmurez pas les uns avec les autres, personne ne peut venir auprès de moi si le Père qui me manda ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Donc le pain de vie, c'est le pain de la vie éternelle qui anticipe la résurrection. Donc, voilà. Et alors, après l'évocation de la manne, l'évocation, et on peut penser que ça fait aussi partie un peu d'un procédé homilétique juif, n'est-ce pas, après l'évocation de la Torah, l'évocation des prophètes. Citation d'Isaïe 54, 13. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ah, il tape dans le bin, n'est-ce pas, Isaïe 54, c'est le grand texte de la Nouvelle Alliance dans Isaïe, dans le second Isaïe, après le quatrième chant du serviteur, le serviteur souffrant. Ils seront tous enseignés de Dieu. Une des caractéristiques de la Nouvelle Alliance, c'est l'universalisme. Par-delà les limites de chaque membre du peuple, chaque membre de l'humanité elle-même. Tout qui entendit de la part du Père et apprit, est devenu disciple, vient auprès de moi. Non que quelqu'un, le Père, il l'ait vu. Nul n'a vu le Père, n'est-ce pas ? Sinon celui qui est de la part de Dieu, celui-là a vu le Père, et ça ne peut être que le Fils. Amen, amen, je vous dis, celui qui croit a une vie éternelle, et alors c'est très cohérent, n'est-ce pas? Le pain de vie nourrit dès à présent la vie éternelle qui est liée au croire. Moi, je suis le pain de la vie. Vos pères mangèrent dans le désert la manne et ils moururent. Donc, on rappelle l'argument des versets 31-32 de la première partie, mais on avance. Vos pères mangèrent dans le désert la manne et ils moururent. Ceci est le pain qui du ciel descend, afin que quelqu'un en mange et ne meure pas. Moi, je suis le pain, le vivant, qui du ciel descendit. Un schème de monter et descendre qui traverse tout le quatrième évangile, n'est-ce pas ? Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Aussi le pain que moi je donnerai, ma chair, il l'est pour la vie du monde. Et voilà qu'est introduit l'élément qui va maintenant prendre de l'essor dans la troisième et dernière partie du discours, le rapport entre croire, le pain de vie qui nourrit la vie éternelle déjà entretenue par le croire et qui est identifié de manière encore plus, on pourrait dire, réaliste, hein, dans la théologie de l'incarnation du quatrième évangile comme étant la chair du Fils de l'homme. Et c'est là-dessus donc que les versets 52 à 59 vont revenir avec, alors à la fois, n'est-ce pas, on peut comprendre le scandale, comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger? Oui, si on s'en tient simplement à la chair indépendamment de la vie éternelle et de la résurrection, on tombe dans l'anthropophagie, donc d'accord, hein. Amen, amen, je vous dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Donc là, on retrouve la terminologie, certainement, de l'Eucharistie, la chair et le sang. Et le verset 54 donne, en quelque sorte, 54 et 55, la clé, hein. Celui qui assimile ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pas seulement le pain de vie qui est lié à la résurrection, C'est le pain de vie identifié eucharistiquement comme chair et sang du Fils de l'homme. Expression donc de l'Apocalypse. Mais qui souligne l'humanité de Jésus. En même temps que le Fils de l'homme est un personnage à la fois divin et humain. N'est-ce pas ? Et alors, comme je le disais tout à l'heure, le verset 55 dit la version complémentaire johannique de l'Eucharistie par rapport à la version des synoptiques. Comment ? En ce que la tradition des synoptiques, qui est reprise d'ailleurs dans nos Eucharisties continuelles, n'est-ce pas, nous fait passer donc du corps au sang. Hein. Jésus dit du pain au corps de Jésus. Il dit sur le pain, ceci est mon corps. On part de la nourriture pour arriver au corps. On part du vin pour arriver au sang. Ici, d'ailleurs, il n'y a pas de vin. Hein. Donc, c'est un des éléments. Mais Jean nous fait faire le mouvement complémentaire inverse. Hein. Il part de la chair pour dire qu'elle est pain, elle est nourriture, et il part du sang pour dire non pas qu'elle est vin, qu'elle est boisson, qu'il est boisson. Donc, on a pu dire à juste titre, tradition rituelle chez les synoptiques, au point que c'est ce qui est repris dans le rite sacramentel de l'Eucharistie, et auquel nous sommes le plus habitués. Mais Jean nous fait faire un chemin complémentaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il fait comprendre qu'il ne faut pas s'arrêter à consommer la chair et le sang de Jésus, il faut que nous devenions, en les recevant à notre tour, nourriture et boisson. Sinon, on est dans le ritualisme, sinon on est dans un sacramentalisme qui risque de ne pas aller jusqu'au bout des sacrements. Or, le sacrement a toujours comme finalité ultime l'amour, la charité, n'est-ce pas ? Donc, celui qui assimile ma chair et qui boit mon sang, en moi il demeure et moi en lui, et il devient à son tour nourriture et breuvage. Donc, il y a là quelque chose qui va être précisément déployé dans les chapitres 13 à 17, c'est-à-dire toute la tradition testamentaire qui va suivre. Car on a ici, en effet, on a dit, n'est-ce pas, synoptique, tradition rituelle, Jean, tradition testamentaire, ou on pourrait dire éthique, hein, au sens large. Il faut que l'Eucharistie se traduise en comportement concret. Comme il m'envoya, celui qui vit le Père, moi je vis, et que moi je vis à cause du Père, celui qui m'assimile, aussi celui-là vivra à cause de moi et deviendra à son tour pain, nourriture pour les autres. C'est ça l'idée, n'est-ce pas ? Le prolongement de l'Eucharistie, au fond, dans la vie quotidienne. Ceci est le pain qui du ciel descendit. Non, comme ils mangèrent les pères et ils moururent, celui qui assimile ce pain vivra pour l'éternité. Donc, plusieurs reprises, surtout dans la partie centrale et dans la dernière partie. Rapport entre Eucharistie et résurrection. Et c'est la raison pour laquelle, pour en revenir très brièvement au plan de l'ensemble du quatrième évangile, n'est-ce pas ? Où sera-t-il de nouveau question de l'Eucharistie liée à la résurrection ? Au bord du lac de Tibériade, en contexte de résurrection, en Jean 21, au moment du petit déjeuner au bord du lac. Donc, c'est pas du tout un appendice, hein ? Le chapitre 21 vient en quelque sorte confirmer dans l'architecture d'ensemble du quatrième évangile cet enseignement sur l'Eucharistie de Jean 6. En vie publique, en contexte de résurrection. Et de nouveau, Alors là, c'est d'autant plus poignant maintenant que ce n'est plus par rapport, on pourrait dire, aux autorités du temple ou au judaïsme officiel que Jésus se heurte à l'incompréhension. Il se donne le plus totalement qu'il peut et la réponse de ses disciples, d'abord ils se battent, c'est un terme très fort, n'est-ce pas ? Ils se battaient les uns contre les autres, les juifs, en disant comment peut-il celui-ci à nous donner sa chair à manger, ça c'est pour les juifs, mais, je suis une phase trop tard, n'est-ce pas ? Où est-ce que je suis ? Tiens, alors j'ai loupé, vous avez, ah ben elle est là ma dernière page, voilà. Donc il y a conflit au moment de la dernière partie du discours, mais la réponse des disciples en 6:60, c'est « dure est cette parole ». Qui peut l'entendre ? Voilà. Alors, endurcissement, ça c'est aussi un des grands thèmes prophétiques, n'est-ce pas ? Quand quelqu'un vous dit « vous êtes dur », ça veut dire qu'il est lui-même dur. Hein, voilà. Donc, incompréhension. Il se heurte à l'endurcissement incrédule de ses propres disciples. Nombreux, nombreux. Sachant Jésus en lui-même qu'il murmure, pas seulement les Juifs. Hein, donc, toujours très important de voir, et on va le voir aussi au chapitre 8, enfin, on verra, c'est le temps qui me restera, mais... ce qui est dit des Juifs l'est aussi des disciples. Donc il ne faut jamais tomber dans le piège, n'est-ce pas, d'isoler ce qui est dit des réactions des Juifs par rapport aux réactions des disciples, parce qu'elles sont identiques. Hein. Cela vous scandalise. Et c'est vraiment, ça c'est identifier l'endurcissement en question. Ils sont scandalisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils butent sur une pierre... dans leur acte de foi. Donc, ils parviennent pas à adhérer. Cela vous scandalise. Si vous contemplez le Fils de l'homme montant là où il était auparavant, l'esprit est celui qui vivifie, la chair ne sert de rien si elle est séparée de l'esprit. Mais la chair, elle est la chair du Verbe et la chair eucharistique, on vient de l'apprendre. Donc, pas de mépris sur la chair, pas du tout. Les mots que moi je vous ai adressés, esprit ils sont et vie ils sont, mais il y en a d'entre vous certains qui ne croient pas. Et de nouveau, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ils savaient du commencement lesquels sont ceux qui ne croient pas et lequel celui qui le livrera. Ah, voilà que pointe la trahison. Donc, C'est pas une sorte de mécanisme fataliste dans lequel nous serions introduits, n'est-ce pas ? Non, c'est la conscience très vive chez Jésus qu'il faut qu'il en passe par là. Hein ? À cause de ceci, je vous ai dit que personne ne peut venir auprès de moi si cela n'est... Alors, j'ai glosé un peu, n'est-ce pas ? Littéralement... ne lui a pas été donné de la part du Père, si ce n'est pas le résultat d'un don, c'est à recevoir. Hein. Je crois que c'est très important dans un contexte déchristianisé ou très sécularisé, n'est-ce pas ? Croire, c'est vraiment un don de Dieu. Hein. Et alors, on voit dans les rangs des disciples, a fortiori dans les rangs des Juifs, que le don est pour tous, mais qu'il l'est reçu que par certains. C'est un fait. Et très déconcertant, hein, parce que vous avez beau, à un certain moment, essayer d'expliquer le plus rationnellement, de la manière la plus convaincante possible, les raisons de croire, à certains moments, ça ne passe pas. Très impressionnant. Et de ceci, nombreux d'entre ses disciples s'éloignèrent vers l'arrière, les nombreux dont il a été question au verset 6, et avec lui, ne marche plus. C'est vraiment, on ne marche plus, n'est-ce pas ?
Alors, vous aussi, vous ne voulez tout de même pas partir aux 12. Il y a très peu question des 12. Hein. Les 12 apôtres, même la terminologie des apôtres, c'est absente chez Jean. Mais ici, oui, il n'y en a plus que 12. Et on sait que déjà, parmi les 12, il y en a un qui va faillir. Hein. Alors, on dit souvent ici, n'est-ce pas, confession de foi de Pierre à Capharnaüm, analogue à la confession de foi de Pierre dans les synoptiques, en particulier chez Matthieu, à Césarée de Philippe. Oui, mais enfin, à Césarée de Philippe, il s'est fait aussi remonter les bretelles, et ici aussi, n'est-ce pas? Ici, voilà, Seigneur, auprès de qui nous éloignerons-nous, hein? Comme on dit, à qui irions-nous, hein? Des mots de vie éternelle, tu en as, et nous croyons, et nous connaissons que toi, tu es le Saint de Dieu. Ah oui, c'est très 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 beau, hein? C'est une belle confession de foi. Et en même temps, tout de suite, n'est-ce pas moi qui vous les 12 vous ai élus. Donc Jésus ne rate. Ah, il ne va pas dire à Pierre, éloigne-toi de moi, Satan, n'est-ce pas? Non, ça c'est un peu. Bon. Mais n'empêche que il ne prend pas pour argent comptant ce type de confession de foi. Pourquoi? De nouveau, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une mise à distance. Hein. Toi, tu es le saint et nous sommes, pécheurs, etc. Oui et non. Hein. Il faut recevoir le don. Et si tu le reçois, tu deviens enfant du Père, comme je suis le fils du Père. C'est ça l'idée. Donc, quand il y a trop de... Comment dire, qu'on met trop Jésus sur le pinacle, et c'est un petit peu le cas ici, il y a quelque chose. Voilà. Il rappelle d'abord la gratuité de l'élection, et on retrouve le verbe de l'élection du peuple élu ici. Hein. Et alors, bon, c'est pas à propos de Pierre, mais enfin, un d'entre vous, diable, il est. Quand même très mystérieux. Et alors, dès maintenant. Mais ça reviendra alors au chapitre 13. On voit la distinction entre le pécheur et l'auteur du péché, hein, le diviseur. Et il faut en quelque sorte le subodorer, hein, dans tous ces mécanismes d'incrédulité auxquels Jésus se trouve confronté. Ça passe l'homme, n'est-ce pas, l'incrédulité, le péché. Il disait de Judas, de Simon Iscariote, car celui-ci était sur le point de se mettre à le livrer, l'un étant d'entre les 12. Donc, je disais, n'est-ce pas, Jésus est dans la tempête, puisqu'il est en procès, depuis le chapitre 5. Et on va le retrouver maintenant en procès dans les deux chapitres qui vont suivre. Oui. À ce titre-là, il est lui-même dans la tempête. Mais il y a plus. Il est dans la tempête. Il est vraiment, en quelque sorte, acculé dans ses retranchements parce que ceux sur lesquels il pouvait éventuellement le plus compter se dérobent. Alors, j'étais évidemment trop ambitieux en pensant que nous pourrions avancer dans le chapitre 8, mais nous allons quand même y entrer, quitte alors à ne dire que quelques mots sur le chapitre 7. Nous nous sommes retrouvés en Galilée, ça a été aussi un... Je vous passe les détails de la problématique exégétique, n'est-ce pas, mais... Un des grands débats, comment est-ce que tout d'un coup, avec ce chapitre 6, alors que nous étions à Jérusalem, on se retrouve en Galilée? Ah ben, parce que c'est un montage du quatrième évangéliste, point barre, et qu'il ne s'occupe pas de nous justifier par le détail les déplacements de Jésus. La grande idée étant celle que je vous ai rapidement résumée, ce qu'il fait dans le sud à Jérusalem, il le fait dans le nord et réciproquement,
Et donc, ces chapitres 1, 19 à 6, 71 nous font traverser toute la terre des promesses dans le corps et la parole de Jésus, en quelque sorte. Le chapitre 7 et le chapitre 8, comme d'ailleurs les chapitres suivants, les chapitres 7 à 12, la deuxième grande phase de la vie publique de Jésus, vont nous ramener à Jérusalem. Et donc ce sera une des caractéristiques de ces chapitres-là, pratiquement 5 chapitres pour les 6 de la première section, de nous maintenir à Jérusalem, unité de lieu. Mais une Jérusalem qui est déjà, depuis le chapitre 5, le lieu où Jésus est condamné pour délier le sabbat et pour se faire l'égal de Dieu. Et à ce titre, il est déjà en sursis, condamné à mort. Le chapitre 7, je vous ai fait une photocopie de la réduction de ce chapitre sur une petite feuille que j'ai donnée pas plus tard que hier à Nidita pour qu'il y ait la photocopie. Mais donc, avec le chapitre 7, nous avons un chapitre de controverse qui s'occupe surtout de la question centrale de savoir si Jésus est le Christ ou non. Ce n'est pas l'objet fondamental, comme nous allons le voir dans un instant, du chapitre 8. Et dans cette question, au fond, christologique, au sujet de l'identité de Jésus, la question de la loi est de nouveau au cœur du débat. Mais donc, très rapidement, avec le chapitre 7, Jésus, à l'étonnement de ses propres frères, comme on dit, c'est-à-dire non seulement des disciples, mais de ceux qui lui sont le plus proches du point de vue de sa parenté, se dit, mais qu'est-ce que tu vas te jeter dans la gueule du loup? Tu retournes à Jérusalem, ça va tourner mal. Tu sais très bien qu'on cherche à t'accuser, à te condamner. Et alors, voilà, c'est l'objet, n'est-ce pas, des versets centraux là, de la première petite partie, les versets 1 à 13. De nouveau, l'évangéliste qui est vraiment très soucieux du temps, hein, du temps de Jésus, depuis le début, hein, avec les lendemains, avec l'heure de Cana, fait distinguer maintenant le temps du monde et son temps à lui. Et il introduit un autre terme, son moment, son kairos. Donc il se détache même du temps liturgique juif. La fête dont il est question là, c'est la fête des tentes. Donc on fait de nouveau un bond considérable, hein, de, disons, pour faire bref, n'est-ce pas, de la seconde Pâque de l'année, vraisemblablement l'année 29, à la Pentecôte, à la Soukhote. Non, c'est la même année. Hein. Donc on passe de la Pâque au printemps à la fête des tentes à l'automne. Hein. Donc de nouveau, fête de pèlerinage. Et donc, Jésus aussi, bon, de nouveau, on voit, n'est-ce pas, en bon juif, il monte à Jérusalem pour la fête des tentes. Je crois que là, il y a quelque chose de très vraisemblable du point de vue de la véracité historique. Hein. Mais c'est parce qu'il est dans son temps à lui. Hein. Au milieu de la fête, au temple, il légitime son œuvre en contexte d'arrestation, mais en contexte aussi de discussion sur la loi. Hein. Vous m'accusez d'avoir violé le sabbat en guérissant un homme tout entier le jour du sabbat, alors que dans la législation juive, c'est le cœur de l'argumentation, quand le jour de la circoncision, le huitième jour après la naissance de l'enfant, tombe le jour du sabbat, eh bien, on procède à la circoncision. ce qui, normalement, n'est pas permis par la loi du sabbat. Donc, argumentation a fortiori, si vous, en quelque sorte, mettez le précepte de la circoncision qui fait entrer l'enfant mâle dans le peuple de l'Alliance le jour du sabbat, si ce jour tombe le huitième jour après la naissance, un jour de sabbat, a fortiori, pourquoi m'accusez-vous, moi, de rendre un homme tout entier saint le jour du sabbat? Ça peut paraître un peu subtil, un peu tarabiscoté, mais quel est le point? Ah ben je crois que là, Jésus discute avec ses partenaires, ses interlocuteurs juifs, et il va jusqu'au bout d'une légitimation de ce qu'il fait au nom de la loi. Donc il cherche à tout prix à se disculper de violer le sabbat, de violer la loi. C'est pas possible pour le Fils, il viole la loi du Père, n'est-ce pas? C'est là-dedans qu'il faut entrer. C'est le Père qui a donné le décalogue, la loi à son peuple. Le Fils ne va pas prendre la liberté par rapport à cette loi du Père. Même anthropologiquement parlant, au point de vue des sciences humaines, c'est très... la loi, c'est la loi du Père. Mais il y a des traditions des hommes qui interprètent la loi et les interdits d'action, d'œuvre à faire ou à ne pas faire le jour du sabbat. Là, en effet, il prend ses libertés, ça c'est sûr. Et c'est ça qui choque. Et il n'a pas peur de choquer à ce niveau-là. Voilà. Puis alors, avec les derniers versets du chapitre 7, à la limite, les choses ne s'arrangent pas et continuent au contraire à se corser de plus en plus, n'est-ce pas ? Il ne parvient pas, il ne convainc pas ses interlocuteurs. Et je crois qu'il faut bien voir que c'est parfaitement possible. Il n'arrive pas à ses fins de justifier ce qu'il fait au nom du Père et au nom de la loi par rapport à ce qui est considéré comme la bonne observance. Donc là, c'est le grand enjeu. Alors bon, je l'ai dit, il y a des écoles différentes, il y a des écoles qui sont plus proches de ce que lui-même dit et fait, n'est-ce pas, que d'autres, mais le grand enjeu, c'est, voilà, fidèle ou infidèle au décalogue, finalement, au cœur de la loi. Alors, je n'ai le temps que de ne voir très rapidement en conclusion de cette séance, n'est-ce pas ? La première partie du chapitre 8, qui n'est plus un chapitre occupé par la question de savoir si Jésus est le Christ ou non, mais c'est un chapitre qui continue à s'occuper du rapport du Fils à la loi. Ça, c'est sûr. Et la meilleure preuve en est que, la première scène du chapitre 8, c'est la fameuse scène de la femme adultère, comme on dit habituellement. Alors, je n'entre pas dans la question critique, elle est présente dans toutes les éditions, dans toutes les notes. C'est un texte suspect, d'ajout postérieur, parce que... disons, beaucoup de pères de l'Église n'en parlent pas, etc. Je pense, pour ma part, que c'est un texte qui a choqué, qui a fait difficulté et qu'on n'a pas intégré tout de suite dans le texte canonique de l'Évangile et des Écritures parce qu'il posait d'énormes questions. Ou alors, justement, il s'agit de nouveau de la loi, mais de la manière de l'interpréter. Et personnellement, je résiste beaucoup à envoyer ce texte-là au panier, parce qu'une fois que vous dites, bon, c'est un texte ajouté, et que soit vous ne le retenez pas, ou que vous le mettez après les chapitres 20 et 21 pour quand même garder cette tradition, Bon, je trouve qu'on prend par rapport au texte reçu dans la tradition des libertés que personnellement je ne me permets pas de prendre. Et d'autre part, je crois qu'on se prive d'un élément majeur pour comprendre la suite du texte. La suite du texte, comme je l'intitule, n'est-ce pas, pour le chapitre 8, « Jésus qui ne condamne pas est condamné ». Et la question, ce n'est pas Jésus-Christ ou pas Christ qui se pose, c'est la question de qui sommes-nous les fils. Le conflit des paternités. Abraham ou qui d'autre? Et donc, à ce moment-là, la scène de Jésus avec l'adultère sert d'appui narratif qui aide beaucoup à comprendre les enjeux plus abstraits et plus spéculatifs de la controverse qui suit. Si on lit le chapitre 8 à la lumière de la parole et du comportement de Jésus à l'égard de cette femme adultère, eh bien, on se rend compte, et je termine là-dessus, que ce qu'il veut essayer de montrer, et qu'il va développer par une argumentation serrée par la suite, mais déjà à la lumière de ce qu'il vient de vivre en rapport avec son interlocutrice, c'est au verset 12, le verset pratiquement central de la péricope, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera sûrement pas dans la ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. » Ça vient immédiatement après, « Personne ne te condamna, moi non plus je ne te condamne pas. » Et cependant, aucune complaisance à l'égard de l'écart de conduite, ne te mets plus à pécher, ne pêche plus. Donc, lumière du monde, parce qu'il ne condamne personne. Bonne soirée, à la semaine prochaine.